Santé Canada autorise finalement l'utilisation du remdesivir pour la COVID-19 et on va faire le point sur la course au vaccin avec nul autre que Mme Nathalie Granvaux, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie et professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Mme Granvaux, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée.
Alors, le remdesivir, on en entend parler depuis plusieurs mois. Est-ce que vous êtes étonnée de la décision de Santé Canada?
Non, en fait, plutôt contente de cette décision. Je pense que c'était quelque chose qui était attendu vis-à-vis des résultats qui avaient été publiés. Donc, juste pour faire un petit résumé, une des principales études sur le remdesivir qui a été faite sur un peu plus que 1000 patients a montré que on pouvait réduire chez les patients qui avaient une forme sévère de la COVID-19 d'à peu près 30% le temps d'hospitalisation ou de traitement avec, par exemple, de l'oxygène supplémentaire et donc, c'est considérable. C'est comme un tiers du temps de moins. Et donc, ça permet de protéger les patients. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qui je pense, était attendue.
Oui, évidemment, Santé Canada va surveiller de très, très près l'évolution de l'administration de ce médicament aux gens qui sont atteints parce que ça peut toujours évoluer. On dit aussi que ça ne soit pas administré aux enfants de moins de 12 ans.
Non, en fait, le remdesivir, il faut vraiment faire attention. C'est pas un médicament qui va être donné à tout le monde. Premièrement, c'est pas une prophylaxie. C'est réservé aux patients qui ont des formes sévères, qui sont sous un suivi hospitalier. C'est un médicament qui se donne par injection et qui a quand même des effets secondaires. Il faut l'admettre. Et pour lequel, comme c'est une molécule quand même assez nouvelle, donc pour lequel on n'a pas tous les éléments encore de sécurité. Mais ça va être suivi au fur et à mesure. Et pour l'instant, les effets secondaires qu'on peut connaître. En fait, pour les patients qui ont une forme de COVID-19 sévère, en fait, ces effets secondaires-là sont contrebalancés par les effets positifs qu'ils ont dans le traitement de la COVID-19. Donc, si c'est surveillé par un médecin en hospitalisation, on a un meilleur ratio, en fait, de bénéfices par rapport aux inconvénients possibles. Mais ça ne peut pas être donné à tout le monde, effectivement.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle, en effet, de savoir qu'on fait un petit pas de plus vers une aide aux patients qui sont atteints gravement. Maintenant, parlons un peu des vaccins, parce qu'on le voit depuis ces derniers jours et encore aujourd'hui, le président Trump mise tout sur les vaccins. Lui, il veut que le vaccin soit là le plus rapidement possible. Les États-Unis ont même dépensé 6 milliards 300 millions de dollars depuis le mois de mars pour financer des projets de vaccins. On en est où en ce moment dans la production de vaccins potentiels anti-COVID?
Écoutez, il y a beaucoup, je pense qu'il y a plus qu'une centaine de vaccins candidats qui sont à différents stades de développement, en fait, certains plus précoces, certains plus avancés. Donc, certains, en fait, sont avancés dans le sens où il y a des essais qui sont faits sur des humains, en fait. Et puis, il y en a certains qui sont encore très précoces parce qu'on est encore dans le développement, par exemple, de tests sur des animaux. Ce qu'on peut dire actuellement sur un certain nombre de ces vaccins, sans en citer en particulier, mais c'est que on a quand même des éléments positifs dans le sens où on est capable de voir un déclenchement d'une réponse immunitaire chez les personnes qui le reçoivent. Ces études-là ont été faites à petite échelle pour l'instant. Et donc ça, c'est la première chose qui est nécessaire, que le vaccin induise une réponse immunitaire chez le patient. Après, est-ce que ça le protège contre une infection par le SARS-CoV-2, donc potentiellement d'être malade de la COVID-19? On n'a pas encore ces résultats-là, puis ça va être dans les prochains mois qu'on va avoir ces résultats. Mais il y a des résultats quand même encourageants. Dans le sens où une réponse immunitaire a l'air de se développer.
Et en termes de tests, parce qu'on le sait, hein, c'est un vaccin, on ne lance pas ça comme ça du jour au lendemain. Il y a des tests d'abord sur les animaux, ensuite des phases 1, 2 et 3 d'essais sur des humains. Est-ce que c'est réaliste de la part de M. Trump de penser qu'il y aura un vaccin avant l'élection de novembre?
Écoutez, moi, je pense que non. Je pousserais même, en fait, l'analyse d'un point de vue personnel en tant que citoyenne et non pas que scientifique. Je pense que s'il y avait un vaccin qui sortait là dans les 2 prochains mois, je pense que je ne me porterais pas candidate pour aller le recevoir.
Ah!
parce que pour qu'il y ait une sécurité sur ces vaccins-là, il y a des tests à faire et on ne peut pas couper à travers ces tests-là. On peut accélérer les phases que vous avez mentionnées, les tests sur les animaux, les phases 1, 2, 3, on peut les accélérer. Mais à la fin, il faut quand même qu'on ait un vaccin qui soit sécuritaire. Si on fait plus de mal que le virus lui-même, on n'aura rien gagné. Donc, pour novembre, peut-être qu'on aura un vaccin candidat qui va avoir émergé où les tests vont être bons. Premièrement, il faut finaliser les tests de sécurité. Puis ensuite de ça, l'élément important, c'est qu'il faut le produire. Et ça, être capable de produire toutes ces doses-là, c'est une autre affaire aussi.
N'est-ce pas?
C'est quand même long.
Oui, une dernière question, Madame Granvaux. Le fait qu'il y ait plusieurs vaccins développés en même temps, ça c'est une bonne nouvelle. Si jamais il y en a, mettons, 4 ou 5 ou même 7, 8, qui arrive à une conclusion positive à peu près en même temps, est-ce que c'est une bonne chose que la population mondiale soit vaccinée de différentes façons?
Ben écoutez, on l'a vu pour d'autres virus ou pour d'autres maladies, il existe différents types de vaccins. Comme par exemple pour le BCG, donc pour la tuberculose, on a 2 types de vaccins qui ont circulé dépendant des pays, puis les gens sont vaccinés avec l'un ou avec l'autre. Les vaccins ont tous des avantages et un peu d'inconvénients souvent. Donc je pense pas que ça pose un problème et je vois pas non plus un avantage particulier à ce que on soit vacciné avec des vaccins différents. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'efficace, sécuritaire. Puis si on arrive avec plusieurs vaccins dans plusieurs pays, puis que ça permet de produire plus de doses dans chacun des pays, ben ça sera une bonne chose, parce que si on a un seul vaccin qui émerge, vous savez, malheureusement, dans le domaine, que ce soit du développement de médicaments ou de vaccination, il reste toujours qu'il y a des compagnies qui sont impliquées, puis des négociations de gouvernement pour avoir des doses. Donc, plus on va avoir d'options, plus on va être capable de vacciner plus de monde, selon moi, à l'échelle de la planète.
Alors là-dessus, on va se laisser. Nathalie Granvaux, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous parler. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes présidente de l'Association canadienne de virologie et professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Merci infiniment.